Je voudrais prendre avec vous dans l'évangile de Luc ce matin, au chapitre 5, un passage tellement simple, tellement, mais combien encourageant, comment le Seigneur veut nous parler encore ce matin. Évangile de Luc, au chapitre 5. Vous savez, quand je me suis converti en 71, je croyais que la Bible, ça coûtait une fortune. J'ai mis 10 mois avant de m'acheter une Bible, parce que je me disais, ça doit coûter cher ce livre. Et on en voit 1,50€ dans les supermarchés, à Auchan, Carrefour. Vraiment, on n'a pas de raison de se priver de la parole de Dieu. Allez, Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Comme nous ce matin, c'est pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Un passage tellement simple, tellement dans la réalité de la vie. Vous savez, le Seigneur parle à nos cœurs et il veut parler à nos cœurs là où on travaille. Tous les jours, il n'y a pas que le dimanche au culte, là où on travaille. Mais pour ça, il faut l'inviter, pour ça, il faut l'accueillir. Pour ça, quand on part le matin, on a besoin de prier le Seigneur et dire, Seigneur, viens avec moi, j'ai besoin de ton aide. Je vous ai déjà raconté qu'un de mes amis qui était représentant comme moi à l'époque, me disait, moi quand je pars, je vais ouvrir la porte du passager. Et j'ouvre la porte et je dis, Jésus, allez viens avec moi. Je veux absolument que tu sois avec moi, parce qu'on n'est pas appelé à être seul, on est appelé à être deux. La Bible nous dit à être co-ouvrier. Co, ça veut dire ensemble. Quelle grâce de savoir qu'on n'est pas seul, mais qu'il est avec nous. Et Jésus veut toujours se manifester. Et alors, il se trouve là, au bord du lac de Génézareth, et puis la foule était là, la foule, parce que le chapitre avant, il nous explique que Jésus, quand il y avait du monde, il priait pour eux, il prêchait le royaume de Dieu, il les guérissait. Et la foule, elle était intéressée par ça. Vous savez, nous, on court peut-être chez le médecin, mais on avait là le grand médecin qui soignait tous les gens. Et les gens n'avaient pas de médecin, ou très peu, malgré que Luc était un médecin. Mais là, la foule était là, elle se pressait pour entendre la parole de Dieu. Il y avait une soif pour entendre la parole de Dieu. Ça faisait des siècles, peut-être, qu'on n'entendait plus rien. Très peu de prophètes. Et là, il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs étaient en train de laver leurs filets. Ah, ça, c'est une tâche sûrement pas très agréable pour les pêcheurs, de revenir et de laver leurs filets. C'est un peu comme nous faire le ménage, c'est un peu comme nous aller au bureau, on a toujours les mêmes choses qui se répètent. C'est souvent pas facile pour nous, et ça devait pas être non plus facile pour eux. Alors, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Là, il se sert de la barque de Simon pour que sa voix puisse porter face aux gens qui étaient sur le bord. Vous savez qu'on dit que le son va trois fois plus loin quand on est sur la mer, quand on est sur l'eau, que quand on est sur la terre. Et Jésus donc prend cela et dit à Simon, « Prête-moi ta barque, je vais monter dans ta barque » et il prêche. Ça, c'est un signe comme quoi tout ce que nous avons, nous devons le mettre au service du Seigneur. Et c'est ça le cœur de Simon. Il avait un cœur humble, un cœur prêt. Il a vu le Seigneur, il n'a pas fait du « c'est bien ». Non, il a mis même sa barque à la disposition du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné beaucoup de choses. C'est à nous de les mettre à la disposition du Seigneur. Dire « Seigneur, ces choses-là, C'est à moi, mais c'est à toi, Seigneur. C'est à toi d'abord. Ma maison, ma voiture, mon salaire, toutes ces choses. Seigneur, je veux te le remettre. Et c'est pour nous l'occasion, la semaine prochaine, d'accueillir tous ces frères et sœurs qui viennent nous visiter pour les rassemblements. Et c'est l'occasion de mettre nos biens au service du Seigneur et des frères et sœurs. Et la parole nous dit même, vous ne savez pas, peut-être que vous allez héberger un ange, un envoyé du Seigneur. Et combien de fois on a fait l'expérience, on est fatigué, la semaine a été dure, et puis arrive ce rassemblement, oh là, le monde arrive. Mais quelle grâce! On a des frères qui partagent leur cœur, et ça nous fortifie, et ça nous encourage. Et pour finir, on passe un super week-end, où on était encouragés par eux, ils ont été encouragés par nous, et on a donné nos vies, on a servi le Seigneur. Et on n'a qu'un souhait, c'est que toute la semaine continue pareil. Dans le Nouveau Testament, dans le temps de Jésus, c'était toute la semaine comme ça. Mais pourquoi pas nous? Nous, ça doit être comme ça, les frères et sœurs. Si on est vraiment co-ouvriers avec Christ, si on va travailler le lundi matin en disant, Seigneur, viens avec moi. Seigneur, je veux que tu sois avec moi, tu sois mon aide, mon soutien. Le Seigneur sera avec nous, on verra des grandes choses. Toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes têtes agressives et méchantes. Mais nous, on sera libres parce qu'on aura une relation, un cœur à cœur avec le Seigneur. On sera dans la paix, on verra sa gloire. Donc il monta dans l'une des barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Vous voyez, c'est un peu le contraire de ce matin. Moi, je suis debout, Jésus était assis sur la barque et puis tout le monde était debout. Je ne sais pas si ça permettait à certains de ne pas dormir. Je ne vais pas vous demander de vous lever, restez assis. Mais écoutez surtout la parole du Seigneur. Il ne faut pas laisser l'assoupissement venir. Et Jésus parle, lui, il est assis et il parle à cette foule. Mais lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, jetez vos filets !» Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Toi, Seigneur, le charpentier, le fils du charpentier, tu vas m'apprendre la pêche? Moi, je suis Pierre, moi, je suis un pêcheur, j'ai fait ça toute ma vie depuis que je suis petit. Non, non, Pierre a su se taire. Il explique, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Frères et sœurs, on a beaucoup de frères et sœurs qui sont des fois découragés, et nous-mêmes, nous pouvons être découragés. Cette semaine, j'ai reçu une lettre d'une dame qui était vraiment découragée. Elle m'a écrit « Bonjour pasteur, j'aime beaucoup vous écouter sur enseignemoi.com. Je suis né de nouveau en 2006, après un divorce, une dépression. J'ai suivi l'école biblique, je me suis fait baptiser. Et puis après, ma vie était une catastrophe. J'ai pas de travail, j'ai pas de mari, j'ai rien, j'ai qu'une vieille voiture, j'ai un vieil appartement. Alors qu'est-ce que vous me conseillez, pasteur? Qu'est-ce qui cloche ?» Voici ma réponse que je lui ai fait par email. « Chère sœur, après avoir lu votre lettre, j'ai un conseil à vous donner. Déménagez. Je vois que ma sœur Marie-Thérèse demeure dans la rue des Plaintes. J'y ai moi-même habité quelque temps et je ne me suis jamais bien porté. L'air était malsain, la maison était malsaine, l'eau était malsaine, les oiseaux n'y chantaient jamais et moi-même j'étais triste et de mauvaise humeur. » Mais j'ai déménagé. Je suis allé habiter rue de la Reconnaissance. Et depuis lors, je me porte bien, ma famille aussi. L'air est pur, l'eau y est pure, la maison est saine, exposée au soleil, les oiseaux chantent, je suis heureux du matin au soir. Eh bien, j'ai un conseil à vous donner, ma sœur, c'est de déménager, vous aussi. Il y a beaucoup de maisons à louer dans cette rue-là, dans la rue de la Reconnaissance. Si vous voulez venir, je suis sûr que ça va transformer votre vie et je serai moi-même heureux de vous avoir comme voisin. » Ce petit texte-là a été écrit par William Booth. William Booth, c'est le fondateur de l'armée du salut et le général, d'après un texte à lui que je me suis inspiré pour répondre. Mais quand on réfléchit bien, tous les dons que Dieu nous a faits, plutôt que de nous lamenter ce qui nous manque ou ce qui ne va pas, efforçons-nous de faire le compte de ses bienfaits. Nous ne pourrons que confirmer, Dieu est amour. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, dit le psaume 103, verset 2. Mes frères et sœurs, peut-être parmi nous, il y a des frères aussi qui habitent encore dans la rue des Plaintes. Mais il faut déménager. Et quelle grâce d'habiter dans la rue de la Reconnaissance. si on peut tous les jours rendre gloire au Seigneur d'être sauvé, d'être né de nouveau, de ne plus être alcoolique, dépressif, découragé, fini, mais d'avoir ce Seigneur dans notre vie, de le remercier pour tout ce qu'il nous donne. Mais même ma vieille voiture, ça va être une super voiture. Même mon petit appartement, ça va être suffisamment grand pour accueillir quelqu'un. Mais tout ce que je vois pour moi qui est trop petit et qui m'insatisfait, mais c'est terrible, ça me descend de plus en plus. Moi, souvent, je pense souvent à nos frères en Afrique. Vous savez, j'étais chez des frères en Afrique, ils n'avaient rien à manger, rien à boire. On était chez le frère Rock, on était chez lui, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, mais il y avait une joie. Il y avait la vie du Seigneur. On se réunissait sous le manguier, il n'avait même pas de voiture, on allait à pied. Et on allait sous le manguier et tous les frères venaient, on partageait, mais il y avait une joie extraordinaire. Mais ils étaient tellement reconnaissants d'avoir une petite maison, d'avoir un manguier, d'avoir tout, simplement des choses simples. Et nous, mes frères et sœurs, ça fait longtemps qu'on a la maison, qu'on a la voiture, qu'on a tout ce qu'il faut, puis on est triste, malheureux comme cette femme. Mais on doit se relever. Et voyez, heureusement que Pierre n'est pas tombé dans cette rue-là, ou il ne vivait pas dans cette rue-là, l'apôtre Pierre, parce qu'il n'aurait jamais jeté le filet. Et quand vous étudiez bien la parole, il nous est dit dans l'évangile de Jean que Jésus a dit « Jette le filet du côté droit de la barque ». Alors moi, j'ai pas été un grand pêcheur de poissons, mais je me souviens bien que qu'on me disait toujours « Quand tu jettes ton hameçon, quand tu jettes ton filet, il ne faut jamais le mettre à droite. » Le droite, c'est quand tu sors, tu vas vers la mer, le côté droit, tu tournes ta barque, c'est là où les poissons t'ont déjà vu arriver avec ta barque. Il faut le mettre du côté gauche. Jésus lui a dit « Jette le filet par la foi ». Même si ça ne correspond à rien dans notre intelligence ou dans notre cerveau, on fait ça par la foi et on reçoit par la foi le miracle du Seigneur. Mais si on se met à réfléchir « Oh, mais Seigneur, tout va bien, j'y arriverai pas, mais Seigneur, je suis pas assez intelligent, mais c'est cuit ». Et il aurait pu argumenter « On a péché toute la nuit ». Non, non, il a dit « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Et c'est ce qu'il a fait, il a jeté le filet et nous dit la parole, il y a une grande multitude de poissons qui sont venus. Ils prirent une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Vous savez, ce que Dieu nous donne, c'est toujours dans l'abondance. C'est jamais un petit peu. C'est déjà au-delà de ce qu'on peut recevoir. Il nous bénit pour qu'à notre tour, on puisse bénir les autres. Nous ne sommes pas la fin de toute chose, nous ne sommes que le début. À partir du moment où on est béni, c'est pour bénir les autres. Sinon, on garde ça égoïstement. Je pense toujours à ce petit garçon qui est venu voir Jésus et il avait dans son sac son goûter. Et là, il n'y avait rien à manger pour toute la foule, pour 5000 hommes. Mais il a donné son goûter aux disciples qui l'ont remis dans les mains de Jésus. Et quand Jésus a pris ce petit goûter, il l'a multiplié pour nourrir 5000 personnes. Vous imaginez si l'enfant avait gardé ça dans son coin, mangé son sandwich, comme on disait tout à l'heure avec les enfants, sans vouloir le partager, pour lui égoïstement, mais il n'y aurait jamais eu cette multiplication des pains. Mais vous savez, des fois ça fait penser à notre vie. On est trop égoïste, on cherche toujours le bonheur pour nous, on cherche toujours notre propre intérêt, alors que la Bible nous dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Merci ma sœur. Mais les frères et sœurs, c'est vrai, c'est la réalité. Et quand vous donnez tout votre cœur, le Seigneur vous bénit encore plus et vous récompense. Vous savez, c'est terrible ce monde dans lequel on est. Le monde nous apprend à nous protéger, à nous, je sais pas quoi, à garder tout ce qu'on a, alors qu'on est appelé à donner, qu'on est appelé à distribuer. Et quand j'ai eu Pierre au téléphone, j'étais surpris parce qu'il m'a dit « J'amènerai un carton avec 500 évangiles ». J'attendais pas, mais je sens son cœur. Je sens l'attitude d'un chrétien qui a envie de donner. Ben nous devons avoir cette envie de donner. Et quand on donne, on reçoit tellement. Et c'est tellement merveilleux. Alors si bien qu'ils n'arrivaient même plus à remonter leur filet. Donc ils appellent leurs amis, ils appellent leurs compagnons, verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est jamais tout seul. On ne pourra jamais faire l'œuvre de Dieu tout seul. Le Seigneur nous a mis dans une église, avec des frères, avec des sœurs. Nous a mis dans des associations où on est ensemble. Parce que tout seul, on n'a pas beaucoup de force. Mais à plusieurs, on peut être vraiment très fort. Quand je vois les derniers travaux qui ont été faits dans l'église ici, je dis, gloire à Dieu pour l'église, gloire à Dieu pour le frère Bruno, pour l'équipe qui est avec lui. qui ont repeint l'entrée, qui ont fait des rayonnages là, qui ont rangé les affaires, qui ont rangé partout derrière. Frères et sœurs, on fait partie d'une équipe merveilleuse. Et d'ailleurs, cette fois-ci, on a mis des petits badges pour les responsables, pour que si vous aviez des problèmes particuliers, par exemple, vous venez amener des choses pour la brocante, ne les abandonnez pas dans l'église quelque part, mais au contraire, venez voir ces frères qui ont un petit badge. Adressez-vous à eux. Il faut qu'on soit organisé. Parce que souvent, on arrive à la fin du culte, il y a plein de choses qui ont été déposées, on ne sait pas qui c'est, et c'est bien dommage. Mais on travaille en équipe. Comme ça, tout est organisé, tout est clair. Et c'est merveilleux de travailler ensemble. Alors ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Ah, c'est merveilleux. Il n'y a pas quelques poissons. Il y avait tellement de poissons. Quand le Seigneur nous bénit, c'est son abondance à lui. Quand il vit cela, alors ça c'est extraordinaire aussi. Quand il vit cela, l'apôtre Pierre, voilà ce qu'il fait. Il tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Frères et sœurs, quand on voit le Seigneur agir, on ne peut avoir que cette réaction quand on est vraiment dans l'esprit, de comprendre qu'on est pécheur, qu'on ne le mérite pas, que c'est par grâce uniquement, que c'est son amour qui fait ces choses-là. Nous, on est des pécheurs. Là, il ne dit pas pécheur de poisson, mais pécheur dans mon âme. Je ne suis pas digne de toi, Seigneur. Comme Ésaïe 6, 5 dit, mais mes yeux ont vu ton salut, mes yeux ont vu ton plan, alors je vais mourir parce que j'ai vu Dieu. Mais non, le Seigneur lui tend la main. C'est Ésaïe 6, 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Parce qu'il avait vu Dieu. Parce que Pierre, quand il a vu cette multitude de poissons, il a dit, « Mais ça peut être que Dieu. » Il y a des situations dans notre vie où on peut dire, « Ça ne peut être que Dieu. Dieu est tout puissant, Dieu n'est pas limité. » Et on voit sa main, et on voit qu'il agit, qu'il veut nous transformer, qu'il veut nous bénir. Et c'est tellement bon de se ressentir qu'on est pécheur, mes frères et sœurs. Vous savez, c'est quand je me sens bien que je suis pas bien. Parce que quand je me sens bien, je crois que j'ai tout compris, j'avance avec le Seigneur. Non, non. C'est quand je vois ma faiblesse, ma misère, et que je me repens devant lui. Là, le Seigneur me change et me transforme. Mais quand on se sent bien, on est cuit. Parce qu'on est religieux. On se donne des tas d'arguments, mais quand on voit le Seigneur agir, on voit vraiment sa main et il est fidèle pour prendre soin de nous et pour intervenir parce qu'il nous aime et qu'il veut montrer sa puissance. Je voudrais vous lire une petite histoire de Sundar Singh. Vous avez connu le Sadhu Sundar Singh. Je crois que dans la librairie, notre sœur diffuse ce livre. Alors qu'il parcourait le Tibet pour y annoncer l'évangile, Sundar Singh fut arrêté et condamné à mort. On le mena au bord d'un puits profond de 10 mètres, jetait habituellement les cadavres. Avec une grosse clé, on ouvrit la lourde porte qui fermait l'orifice. On cassa le bras gauche du prisonnier pour lui enlever toute possibilité de vouloir s'échapper. On le jeta dans cette horrible fosse. Il raconte, au fond de ce trou infect, sans manger, sans boire, la présence de mon Seigneur transforma pour moi ce lieu en paradis. Je pensais que Dieu allait me prendre à lui, mais la nuit du troisième jour, j'entendis une clé tourner dans la serrure. Une voix me dit de saisir la corde qui m'était lancée. Je la saisis et je me sentis doucement soulevé et déposé hors du puits. La porte se referma derrière moi et la clé tourna dans la serrure. Sundar, qui n'avait vu personne, rendit grâce à Dieu pour cette délivrance miraculeuse. Il recommença à prêcher dans les rues de la ville. Le gouverneur en fut informé. On vérifia la fermeture du puits. On s'assura que la seule clé qui ouvrait la fosse n'avait pas quitté la ceinture du responsable. Finalement, le gouverneur dit à Sundar, « Ton Dieu est un Dieu puissant. » Il t'a délivré. Nous ne pouvons plus te faire de mal, mais va-t'en de notre pays ils le chassèrent de leur territoire, comme autrefois on avait chassé son maître, le Seigneur Jésus. Et comme ça, donc, il a été délivré par le Seigneur. Le Seigneur n'est pas limité. Et nous, on va se plaindre parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'on n'a pas ci, parce que pas ça. Le Seigneur va chercher un homme au fond d'un puits qui est son enfant. Il va le faire ressortir. Et quand il ressort, il continue à prêcher l'Évangile. Mes frères et sœurs, c'est parce que cette puissance de l'Évangile remplit notre vie, sa vie. Mais il faut que ça remplisse notre vie. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Sinon, on est toujours en train de se plaindre et en train de trouver que ça ne va pas. Mais la grâce de Dieu est là. Et le Seigneur veut vraiment prendre soin de nous, qu'on puisse le connaître, comme disait Bruno dans Philippiens. Paul, effectivement, il avait tout connu. Il était juif, il était pharisien, il est formé par Gamaliel. Mais tout ça, c'est de la boue, il disait. Moi, ce qui est important, c'est de connaître Christ. Et des fois, vous savez, on peut avoir fait l'école biblique, on peut avoir fait des grandes études. Mais tout ça, c'est de la boue. Ce qui est important, c'est de connaître Christ. Alors, j'ai rien contre les études bibliques et on vend des CD pour se former. Il faut se former. Mais je veux dire, il y a plus que ça. Il y a connaître le Seigneur vraiment, lui donner notre vie, le laisser avoir la première place dans notre vie. Alors, quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi. Ce n'est pas la crainte, c'est l'épouvante. Il réalise son état. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, les frères et sœurs ? D'être là au culte, d'entendre la parole de Dieu, et tout d'un coup, c'est de vous qu'on parle. D'ailleurs, c'est souvent agressé par des frères et sœurs qui viennent me voir en me disant, « Mais Jean-Louis, t'as raconté ma vie ce matin à l'église. Qui c'est qui te l'avait raconté ?» Personne. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et c'est une grâce. Ça montre que Dieu nous aime, que Dieu veut nous tirer de notre puits, de notre trou dans lequel on est tombé, pour pouvoir venir à lui, être libéré. Et ça doit donner à notre cœur un désir. Seigneur, tu es vraiment puissant, parce que c'est toi qui parles. C'est à travers ton serviteur, tu me parles, parce que tu m'aimes, parce que tu veux le meilleur pour moi. Et c'est toujours pour nous tirer de là où on est, du piège dans lequel on est. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent, on est dans un piège. On sent bien, on croit qu'on est bien spirituellement. Ah, nous, on fait tout comme il faut. Mais non, non, on a besoin de la grâce du Seigneur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, des fils de Zébédée, les associés de Simon. Tout le monde est fini, parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Toi, ton petit boulot là, ordinaire, d'aller à la pêche tous les jours, rengaine et tout ça, moi j'ai quelque chose de plus grand à proposer. D'être un pêcheur d'hommes, d'attraper les hommes vivants pour moi, de les amener à me connaître. Je peux vous dire que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses, mais la plus grande joie, la plus grande satisfaction, c'est de prêcher l'Évangile. C'est de voir des gens changer, transformer. Des gens qui me disent, mais Jean-Louis, tu te rappelles, en telle année, on s'est vu, tu m'as parlé du Seigneur, j'ai donné mon cœur au Seigneur, ma vie a été transformée par ce jour-là. Mais c'est enrichissant, c'est extraordinaire comme appel. Quand on fait une affaire dans le monde, on est content, on a fait une bonne affaire, puis la fois d'après, on fait une mauvaise. Et puis, ça n'a peine aucune joie. Mais de servir le Seigneur, d'être l'instrument du Seigneur, là où le Seigneur nous a placés, d'aller voir notre voisine, de lui amener une petite soupe ou un petit truc, on sait qu'elle est en difficulté, et de lui parler de Jésus, comme on a fait avec la coiffeuse là tout à l'heure. C'était très parlant, les jeunes. Il y a une parole au moment de partir, que Dieu vous bénisse. Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'était super, mais c'est la réalité de la vie ça. C'est tous les jours qu'on a l'occasion de dire à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Et la personne est là, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est comme ça qu'on commence un dialogue, et qu'on voit la main du Seigneur, et que ça réjouit le cœur du Seigneur. Et là, on devient ses instruments, ses pêcheurs d'hommes, c'est autour de nous, afin qu'ils puissent découvrir la lumière du Seigneur. Alors il lui dit, ne crains point. Ah, la crainte, c'est le contraire de la foi. Quand on craint, c'est parce qu'on n'est pas dans la foi. Quand on a peur, parce qu'on n'a pas la foi. La foi, ça se cultive, c'est comme un muscle. On se met tous les jours à faire confiance au Seigneur, et petit à petit, on grandit de plus en plus. Par contre, la peur, si vous laissez la peur vous envahir, moi je connais des frères et sœurs qui sont venus ici en 1989, quand on a acheté le local, et qui m'ont dit « Moi, je ne peux pas garer ma voiture dans un parking souterrain, j'ai peur. » Ben, ça fait 22 ans, ils ne gardent toujours pas leur voiture dans un parking souterrain alors qu'il y a plein de places. Alors on tourne. Mais les peurs, c'est pour être vaincu, mes frères et sœurs. Et ça, c'est vaincu par la foi. « Seigneur, je ne suis pas rassuré, mais j'y vais avec toi dans ce parking-là. Je m'arrête, je te fais confiance, et puis tout se passe toujours très bien. » Si on a peur, on est paralysé. On ne fait plus. Non, nous sommes appelés à ne pas avoir peur. Hein? Vous savez de quoi on doit avoir peur? De nous-mêmes. De notre éloignement du Seigneur. De notre dureté de cœur. De nos habitudes. Ah, on vient au culte parce que c'est dimanche, mais j'écoute pas. Je suis là et je pense aux élections ou à je sais pas quoi. Non. À vous entendre rire, c'est que vous m'écoutez. Là, c'est bien. Hein? Donc, on est là, les frères et sœurs. Mais ça, on doit s'en méfier. Parce que l'habitude, c'est le culte. Non, mais c'est la parole de Dieu qui vient. Elle a la même puissance que quand Jésus l'a prêchée à toute cette foule. Elle doit faire les mêmes effets que ce qui est arrivé à Pierre quand il a entendu cette parole et qu'il a dit « Mais je suis pécheur. Mais moi, je suis trop loin, moi. Je suis loin de toi, Seigneur. Alors je viens, je m'avance, je m'humilie, je me repens et je m'approche de toi. » Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ah, ça, j'aime cette phrase. Quand, vous savez, quand on est béni par le Seigneur, on ne court plus après les choses matérielles. Il y avait toute une théorie de la prospérité qui est venue dans les églises, qui a fait un dégât monstre dans beaucoup d'églises, parce qu'on disait maintenant, tu es fils de roi, tu vas devenir riche, tu vas avoir la plus belle voiture. Même Yonggi Cho disait, tu vas rêver, enfanter dans l'esprit une belle maison et tout ça. En fait, c'est des trucs fous. Pierre connaît bien ça, il m'a raconté toutes ces histoires de Mercedes et tout. Mais le Seigneur l'a lavé, le Seigneur l'a libéré, gloire à Dieu, hein? Mais bon, on était tous comme ça. Moi aussi, j'étais chez Yonggi Cho en Corée pour écouter ça. Mais quelque chose, ça ne va pas. Mais quand c'est Dieu qui te bénit, c'est la paix, c'est la joie. Ça vaut tellement plus que les biens matériels. De rentrer chez toi en te disant, « Bon, j'ai pas la plus belle voiture, j'ai pas la plus belle maison. » Mais c'est pas grave, Seigneur, j'ai toi. Je te connais. Parce que ce qui a été terrible pour les gens qui ont eu des belles maisons, des belles voitures, après, l'ennemi leur disait, « Il faut que tu trouves aussi une belle femme. » Et ils ont tous divorcé, ils sont remariés. Mais c'est terrible, à pleurer. Et quand ils se sont remariés, ils ont retrouvé des problèmes encore pires qu'avant. C'est terrible. Non, la bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit. C'est sa paix, c'est sa joie. C'est j'ai envie d'être avec les frères, je suis heureux avec eux, j'ai envie de partager l'évangile. Mon cœur est rempli de joie. J'ai fait peut-être des travaux dans l'église, j'ai peut-être passé le ménage, peut-être tout seul parce que les frères ne sont pas venus. Mais j'étais content parce que j'ai fait ça pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, d'ailleurs c'est Colossiens ça, tout ce que vous faites, ne le faites pas pour les hommes, mais faites-le pour le Seigneur. Allez, Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point de favoritisme. Frères et sœurs, demain, à l'école, ou au bureau, au travail, ou à la maison, en faisant le ménage, tout ce que vous faites, faites-le non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Dis Seigneur, je veux faire pour toi. Aide-moi, Seigneur. Mais vous allez le faire avec joie, et vous allez recevoir du Seigneur, d'un travail tout à fait ordinaire, quelque chose qui va venir dans votre cœur, vous apporter la joie. C'est vraiment un verset clé. C'est vraiment quelque chose qu'on doit vivre tous les jours. Laissez cette joie du Seigneur venir dans notre cœur en disant, Seigneur, je dois faire le ménage, je dois faire la vaisselle. Enfin, moi, je ne fais jamais la vaisselle ou presque, parce que j'ai une femme extraordinaire. Mais bon, elle a fait la vaisselle tous les jours ou plusieurs fois par jour, mais je suis sûr que le Seigneur l'aide et qu'elle demande l'aide du Seigneur. Il faut peut-être que ça change un peu. Ça va venir. Reste dans la foi, ma chérie. Mais quand vous faites les choses avec le Seigneur, c'est extraordinaire, les frères et sœurs. Hein? On voit sa main, il nous bénit, il nous encourage, hein? Et il nous fortifie, et on peut vraiment voir sa main agir. Et voilà, au moment où ils sont les plus prospères, Pierre, Jacques et les pêcheurs, c'est là qu'ils sont plus intéressés par leurs poissons. Ils laissent la pêche, nous est dit. Et il est dit exactement, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils ne sont plus intéressés. Hein, frère et sœur, il y a bien des choses qui nous intéressent humainement, puis on reste accroché. Mais quand on laisse le Seigneur faire, quand le Seigneur nous libère, ben ça n'a plus de valeur. On quitte ça, on suit Jésus. C'est à cela qu'on est appelé, à suivre le Seigneur, à laisser derrière nous tout ce qui est passion, tout ce qui nous accapare, tout ce qui nous finit. Et pourtant, on sait tous ce qui nous finit, quelles sont nos passions, quels sont nos trucs. Mais quand on le laisse et qu'on sert le Seigneur, c'est tellement merveilleux. Et le Seigneur peut nous donner beaucoup, mais même ce beaucoup-là ne nous intéresse plus. Il n'y a qu'une seule personne qu'on veut suivre, c'est Jésus. Parce qu'il ne faut pas être attaché à la bénédiction, mais à celui qui donne la bénédiction. La bénédiction, c'est bien, c'est grand, mais celui qui donne la bénédiction, c'est encore plus grand. Et c'est pourquoi le but du Seigneur, c'est qu'on soit accroché à lui, attaché à lui. Et c'est ce que disait Paul dans le passage de Bruno tout à l'heure sur les Philippiens. Mais tout ça, je veux considérer comme de la boue, parce que je veux saisir Christ à travers sa mort, à travers ses souffrances. C'est-à-dire que je veux accepter de souffrir. Je veux accepter. Vous savez, quand Jésus a dit à Pierre, « Allez, prends ta barque et jette tes filets », avant, il lui a dit, « Va en pleine eau ». Là où tu n'as pas pied, va jeter ta barque là. Là où tu dois me faire confiance. Mais il y a beaucoup de situations dans notre vie où le Seigneur nous demande, allez, va en pleine eau. Ne reste pas au bord en jetant ton filet comme ça depuis le bord. Tu n'auras jamais rien. Mais fais-moi confiance. Va là où il y a de l'eau, où il y a de la profondeur. Va là et jette là ton filet. Pareil pour la souffrance ou les situations. Ah non, Seigneur, ça fait trop mal. Non, non, alors je reste sur le bord. Non, non, au contraire, dit le Seigneur, je vais aller avec toi. Tu vas m'accompagner. Tu vas être mon soutien. Et je me souviens, au début de cette année, quand j'ai été opéré dans des conditions vraiment de souffrance, j'ai tellement ressenti la présence du Seigneur. J'ai tellement ressenti la présence du Seigneur, j'avais envie d'en parler à tout le monde et j'en ai parlé à tout le monde, aux chirurgiens qui m'opéraient, aux gens qui étaient là. C'est merveilleux. Mais il faut aller en pleine eau. Il faut aller là où on ne peut plus humainement. Seigneur, je me remets entre tes mains. Seigneur, je te fais confiance. Et c'est là que Pierre a été, et c'est là que Jésus a manifesté sa grâce, en pleine eau. Mais si on reste sur le bord, en disant un petit bout, allez Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur ne va pas nous bénir. Il y a un acte, il y a une démarche de confiance. On doit lui dire, Seigneur, il n'y a qu'à toi que je peux faire confiance, et c'est à toi que je m'attends. Et le Seigneur est puissant pour agir et manifester sa grâce, nous bénir, c'est pas tellement ce qui compte, parce que de toute façon, il nous bénit. Parce que quand il nous touche, il nous bénit. Pour moi, de me repentir, c'est une bénédiction. Parce qu'on retrouve un nouveau contact avec lui, un nouveau cœur à cœur, on repart. Et si le Seigneur me parle durement et que je m'aperçois que je ne l'ai pas suivi, ou que j'étais infidèle, ou que je suis resté sur le bord du rivage, au lieu de marcher, au lieu de m'approcher en pleine eau, mais c'est une grâce quand il me montre ça. Ça m'attriste, parce que je suis comme ça, mais Seigneur, je m'approche de toi. Et quand je m'approche de toi, quand je me repens, je sais que tu me touches, que tu me pardonnes, que tu me restaures. Et demain, quand je vais me lever, commencer à prendre la parole de Dieu au sérieux. Avant d'aller travailler, avant d'aller affronter le monde, je vais attendre, Seigneur, que tu me donnes une parole. Et sur ta parole, après, je pourrai aller dans le monde. C'est raconté cette dame qui était dans tous les matins, tous les lundis matins. Elle disait, mon lit me tient, mon lit ne veut pas me libérer. Et puis un jour, elle a lu dans Samson, quand Samson, Dieu lui dit, tu vas être un héros, Samson, tu vas aller renverser le peuple ennemi et tu vas ramener Israël dans ses territoires. Samson a dit, mais moi, je ne suis qu'un petit gars, moi. Je suis le plus petit de la famille de Manassé et même le plus petit de ma famille. Et Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Et je serai avec toi. Et cette dame a dit, cette parole, va avec la force que tu as, je me le suis approprié. Et lundi matin, je dis au Seigneur, je vais avec la force que j'ai. Toi, tu vas m'aider. Et le Seigneur est fidèle pour agir et pour manifester sa grâce. Frères et sœurs, on a tout pleinement en Jésus-Christ. On a tout en lui. Donc quand on lui ouvre notre cœur, quand on reconnaît notre situation, nos faiblesses, nos manquements, Il nous relève, il nous pardonne. Et quelle grâce de le connaître. On va lui parler, on va se tourner vers lui. On va reconnaître notre état. On va lui demander son aide.